Comment faire du sport et être en bonne santé tout en étant végétarien ou vegan? Sébastien Diffenbrun nous explique les points sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre une nouvelle fois de Sébastien Diffenbrun, qui accompagne et suit les sportifs, notamment dans le trail et le sport d'endurance. Il les accompagne dans la stratégie nutritionnelle, à l'entraînement, mais aussi dans les courses. C'est la troisième fois que Sébastien vient dans le podcast. Dans le premier épisode, ensemble, nous avions parlé de la micronutrition, de son intérêt pour l'endurance. Puis nous avons parlé des carences dans le deuxième épisode. Cette fois, nous allons nous concentrer sur l'alimentation végétale et les points de vigilance qu'il faut avoir quand on adopte une alimentation végétarienne ou végétalienne. Car certains apports animaux ne sont pas faciles à compenser et leur manque peut avoir des conséquences importantes sur le court et le long terme pour notre santé. Nous avons aussi parlé de la difficulté d'avoir suffisamment de protéines sans créer un déséquilibre glucidique et vous allez aussi constater que cela a un impact fort sur la digestion du fait de la quantité de fibres à ingurgiter. Et donc là, vous comprenez bien l'impact que ça peut avoir sur le confort intestinal pendant l'effort. Avec Seb, nous avons ainsi le grand tour des points de vigilance et puis nous parlons aussi de l'obligation de prendre ou pas des suppléments alimentaires quand on adopte une alimentation végétarienne ou végétalienne. Bon, après, rassurez-vous, si vous êtes tenté par cette alimentation-là, il nous donne des pistes pour être en bonne santé. Et puis, nous constatons aussi que des sportifs de haut niveau arrivent à adopter une telle alimentation. Mais, comment font-ils? Eh bien, c'est aussi le sujet de notre discussion. Allez, c'est parti. Bonjour Sébastien.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Écoute, ça va bien. Écoute, je suis content, on se retrouve là, c'est la fin de l'été. Pour un sujet qui est... pour moi, qui m'apparaît un peu complexe, mais qui questionne beaucoup de gens. J'ai eu une question sur Instagram la semaine dernière de quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait pas faire un épisode sur le sujet. Et je lui dis, bah, écoute, c'est programmé. Donc ça tombe bien, tu vois, on est en pile dans l'eau. Mais avant, je vais te demander quand même si tu de te représenter, parce que c'est la troisième fois que tu viens dans Sport et Nutrition.
Oui.
Ceux qui n'auraient pas écouté les deux précédents épisodes, qu'est-ce que tu peux leur dire pour te présenter?
Alors, assez simplement, je suis nutritionniste et j'accompagne essentiellement des sportifs, surtout des sportifs d'endurance. Donc, on va dire trail, triathlon, cycliste, dans leur pratique pour optimiser tout ce qui va être lié à la nutrition, la micronutrition au quotidien. Et tout ce qui est lié au ravitaillement, quoi.
On enregistre là, c'est en pleine semaine du TMB, on diffuse en pleine semaine du TMB. T'as des sportifs qui sont à l'UTMB?
Ouais, j'en ai quelques-uns, effectivement.
Ouais, ça doit être chaud, hein, programmer tout ça, là.
Oui, bah, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour préparer. Bon, déjà, au quotidien, c'est un travail de longue haleine. Et ensuite, là, la préparation du ravito, chez les athlètes que je suis, elle est calée déjà depuis quelques semaines. C'est pas maintenant qu'il faut préparer son ravito, c'est un peu trop tard. Il faut déjà l'avoir vraiment bien préparé et pouvoir l'ajuster si besoin. Là, la météo, elle a été changeante.
Ouais.
On est passé de canicule la semaine dernière à neige. Mmh. Donc voilà, il faut pouvoir l'adapter rapidement en fonction de ces changements climatiques et ça fait partie de ce qu'on travaille avec les athlètes.
Est-ce que parmi eux, t'en as un qui est végétalien, ou je ne sais quoi?
Qui court à l'UTMB, là, j'en ai... Si. Autant pour moi, j'ai un végétarien.
Ah, voilà.
Qui court l'UTMB.
Eh ben écoute, comme quoi, c'est possible. Parce que c'est justement le sujet de l'épisode de cette semaine, hein, sur justement les végétariens, reine végétale, etc. Comment on s'en sort de tout ça, hein, finalement, et qu'est-ce que c'est? Comment je regarde la liste de ce que tu as préparé. Il y a beaucoup de sujets à aborder pour le sportif végétarien. Mais on va commencer d'ailleurs par une petite définition, parce que pour recaler un petit peu les choses, hein, entre les végétariens, végétaliens, véganes, etc. En quelques mots, qu'on reprécise un peu pour qu'on soit d'accord sur les termes, qu'on emploie les bons termes.
Alors, c'est assez simple. On a déjà d'un côté les végétaliens ou véganes qui ne mangent aucun produit animal. Mmh. Ensuite, on va avoir les ovo-lactos qui vont manger œufs et produits laitiers. Alors parfois, on peut avoir que des ovos qui vont manger que des œufs, parfois que des lactos qui vont manger que les produits laitiers, sinon les deux. Et ensuite, on va retrouver les pescos qui vont manger des produits de la mer et du poisson. Voilà, pour faire simple.
Alors, attends, tu m'as dit les ovo-lacto, les pesco
Oui.
et les végétariens
Et
alors?
alors, végétarien, c'est la grande famille, du coup,
Voilà.
avec pesco, ovo-lacto. Mais c'est juste que là, ça se sépare en deux familles. Parce que parfois, il y en a qui ne mangent pas de poisson, il y en a qui mangent du poisson, il y en a qui mangent des œufs, il y en a qui mangent des œufs, etc. Voilà. C'est simplement, on va dire, des sous-familles. Mais en règle générale, si on veut simplifier, souvent le végétarien va quand même s'autoriser les œufs et les produits laitiers,
Ouais.
là où les véganes ou végétaliens ne se les autorisent pas. Voilà. En gros, on va faire simple. Voilà. Je vais partir sur ces deux schémas-là.
Ouais. Bon, après, encore c'est moins le cas, mais même d'ailleurs, chez les véganes, on a même ceux qui ne consomment même pour s'habiller, etc., même pas de cuir ou quoi que ce soit. Hein. Faut
Oui,
aller jusqu'à la
exactement, ouais.
logique là-dedans aussi, hein, de le dire. Ça change beaucoup de choses d'ailleurs entre si on est végétarien, vegan, etc. Enfin, je pose la question, mais oui, forcément que ça change énormément de choses.
Sur la partie nutritionnelle, tu vas voir, on va en discuter de un petit peu tous les aspects, mais effectivement, ça change énormément la donne sur les micronutriments qu'on va pouvoir absorber. Parce qu'il y a des micronutriments qu'on va retrouver dans les produits laitiers, dans les œufs et les produits de la mer, qu'on ne retrouve pas dans le règne végétal, et donc du coup, qu'il va falloir apporter d'une manière différente pour maintenir une pleine santé.
Et tu vois, dans la liste, hein, on a le premier point, c'est les protéines. Et justement, c'est un point qui est super important parce que là, tu viens de parler des œufs, on a parlé du lait, du fromage, du poisson, qui sont des sources de protéines, hein, et qui sont en plus, alors j'ai dire assez faciles. Enfin, les œufs, c'est assez facile d'en trouver. Le fromage, surtout en France et en Europe et tout, trouver du fromage, c'est quand même très facile, etc. Pour moi, c'est vraiment super compliqué. Je me dis végétarien, ça me semble pas super compliqué, enfin par plein d'aspects, alors que vegan, ça me semble vraiment super compliqué.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que je disais d'ailleurs il y a quelques instants. On peut, je pense, arriver à construire quelque chose d'intéressant avec du végétarisme, là où le véganisme, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Chez le sportif, d'autant plus, parce que les besoins sont exacerbés, que ce soit en protéines ou en certains micronutriments, on a besoin de beaucoup plus qu'une personne sédentaire. Et là, on va se retrouver clairement un petit peu dans une impasse, avec le véganisme.
Parce que finalement, moi, tu vois, sur la question au véganisme, je me dis les protéines, il les trouve où quand tu es vegan? Où est-ce que tu vas trouver les protéines?
Bah, tu vas les retrouver dans les céréales
Ouais.
complètes et tu vas les retrouver dans tout ce qui est légumineuses, lentilles, haricots, etc., et les oléagineux.
D'accord.
Essentiellement. Après, on en retrouve en petite quantité, en plus petite quantité dans certains légumes, mais voilà, les trois grands axes, c'est céréales, oléagineux, légumineuses, et puis j'ai oublié le soja et ses dérivés.
Ouais, je me rends pas compte de la quantité qu'il faut parce que, enfin, on sait qu'il faut des quantités de protéines par poids de corps, etc. et tout. C'est compliqué parce que il y a une question sur le problème de quantité globale, etc. On parle aussi des acides aminés. On va y revenir sur ces fameux acides aminés parce que pour expliquer un petit peu la complémentarité des différentes familles que tu viens de citer. Mais des fois, en fait, quand je regarde les choses, je me dis. Pour avoir la quantité de protéines nécessaire en mangeant que du végétal, j'ai l'impression que ça fait absorber une quantité alimentaire de certains aliments qui me semble un peu importante et notamment qui va déséquilibrer les autres familles, tu vois, glucides et tout. Est-ce que c'est une fausse impression ou est-ce que c'est...
Non,
Comment...
c'est le cas.
Ouais.
Non, clairement, c'est le cas. Si on reste sur quelque chose de uniquement végétal, végétalien, vegan, effectivement, pour avoir suffisamment de protéines, il va falloir manger beaucoup de légumineuses, glucides, etc. Et donc, on se retrouve avec des quantités de macronutriments, du coup, des glucides pour les citer, qui sont très importantes. Donc ça peut poser un problème. Et aussi, le deuxième problème, c'est les quantités de fibres. Parce que tout ce que j'ai cité, c'est des choses qui ont beaucoup de fibres. Alors, il faut des fibres dans l'alimentation pour la diversité du microbiote, notamment. Mais on peut pas se permettre des trop grosses quantités de fibres, surtout chez le sportif. On va se retrouver à un moment donné, le système digestif dans les sports d'endurance, il est quand même mis à rude épreuve. Et donc, si on apporte ces grosses quantités de fibres, on ne sera pas capable de les digérer. Certaines personnes vont constiper en fonction du microbiote, certains vont constiper, certains vont avoir la diarrhée, mais dans tous les cas, on va se retrouver avec des problèmes digestifs si on va vers des grosses quantités de fibres.
Voilà, ça confirme à peu près la vision que j'avais, parce que tu vois, des fois, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait possible, tu vois, on a essayé de faire des semaines, d'ailleurs, où on se dit, tiens, on pourrait manger, limiter certains trucs, mais autant végétarien, ça me semblait facile, autant, je leur dis, hein, autant me passer, alors moi, fromage, œuf, laitage, poisson, bon, non, j'en mange toutes les semaines aussi. Tu vois, j'ai vraiment du mal, en fait, de voir comment on arrive à avoir la quantité nécessaire sans tout dérégler le reste, en fait.
Bah, c'est aussi souvent que justement les personnes elles n'arrivent pas aux quantités nécessaires. Chez le sportif, on juge quand même en règle générale qu'il faut entre 1,5 et 1,6, parfois 1,8 grammes par kilo de poids de corps pour les sports d'endurance, un peu plus pour les sports de force. Et du coup, ben souvent les végétaliens, ils vont pas se retrouver à ces quantités-là parce qu'ils vont se retrouver bloqués parce qu'on a évoqué avant. Et donc du coup, on se retrouve avec cette problématique de manque de protéines d'une manière générale. Là où chez les végétariens, on aura moins le problème, clairement.
Oui, parce que finalement, après un bout de fromage en protéines, je ne sais pas quel est le pourcentage par exemple, mais tu vois, l'autre jour, j'étais en train de regarder mes Babybel, parce que j'ai amené des Babybel sur ma course de vélo. Je me disais, bon, il y a quand même pas mal de protéines, tu vois, dans un petit bout de fromage qui prend pas beaucoup de place. Un œuf, on n'est pas si mal que ça. Le poisson, tu vois, même moi, sur mon vélo, j'ai amené des maquereaux, par exemple, au niveau, et c'était pas si mal que ça, tu vois. Et puis après, quand je regarde le truc, je me dis, mais en fait, tout ça, si j'étais végétalien, je pourrais pas le manger. Alors, toi, je me suis dit, oh, attends, alors qu'est-ce que je pourrais manger à la place? Et ben, je me suis retrouvé bien embêté, tu vois, quand j'ai vu les quantités. Surtout que moi, déjà, je trouve qu'en mangeant de tout, j'ai du mal des fois à avoir mon quantité de protéines nécessaire. Quand j'ai fait des analyses, des tests, hein, tu vois, de mesurer un petit peu, je me suis dit, bah, attends, déjà, en protéines, je suis un peu limite. Mais je me dis, si en plus, je me dois me passer de ça, je me dis, je voyais vraiment pas comment faire, tu vois.
Exactement.
Alors, ça, c'est une question de quantité. Et alors, on parle des fameux acides aminés. Alors, on va réexpliquer pour ceux qui ne le savent pas. C'est quoi les acides aminés?
C'est les composants des protéines, tout simplement. Les protéines, faut voir ça un petit peu comme un Lego. C'est plein de petites briques, plein de petits acides aminés. Il y en a qui sont essentiels, il y en a qui ne le sont pas. Il y a les BCA qu'on entend souvent parler qui font partie d'une de ces familles. Et on, voilà, c'est, pour simplifier, c'est un petit peu ça, les briques qui nous permettent de construire les protéines.
Alors, il faut le dire, ces briques dans la viande, le poisson, les œufs, les choses comme ça, on les a toutes?
Oui, on les a toutes, après en proportions potentiellement différentes. Et on a surtout les acides aminés qui sont essentiels. Et là, je vois où tu veux en venir. Effectivement, dans le règne végétal, on n'a pas tout en règle générale. Donc, on dit souvent qu'il faut combiner, c'est-à-dire qu'il faut combiner, par exemple, des légumineuses avec des produits céréaliers pour avoir quelque chose qui est le plus complet possible. Ça, c'est très vrai. Il n'y a pas de débat avec ça. On a même longtemps dit qu'il fallait mélanger dans le même repas des acides aminés. Maintenant, ça a évolué sur cette partie-là. La science dit plutôt que il faut qu'on ait la quantité suffisante d'acides aminés sur la journée. Voilà. Donc on peut répartir un petit peu comme on veut sans avoir dans le même repas
D'accord.
l'ensemble.
On n'est pas obligé de faire un dalle à tous les repas, quoi.
Exactement, ouais.
Non, mais alors, je le dis, en plus, je le dis en blaguant l'histoire du dalle, mais si on regarde les recettes traditionnelles de plein de pays, hein, le dalle, bon, c'est pour le Népal, etc., mais on pourrait retrouver ça aussi sur l'Afrique du Nord, sur plein de pays, où ce mélange de céréales, de légumineuses, il existe naturellement dans plein de recettes de base, hein, de l'alimentation.
Oui, bien sûr.
Et le dalle, moi, je le dis souvent parce que c'est un truc que j'adore et que c'est assez facile, c'est riz et lentilles, donc on est vraiment sur céréales, légumineuses, sur ce mélange-là, et effectivement, ça apporte ces fameux acides aminés. Mais en fait, il y a plein de recettes très traditionnelles de plein de régions du monde qui ont ces bases-là, en fait, hein, où on voit que finalement, alors je sais pas comment ils avaient découvert qu'il fallait faire ces associations-là, je serais très curieux de savoir d'ailleurs comment ça s'est fait, mais où on se rend compte que elles existent, ces associations existent déjà dans plein de recettes de base, en fait.
Oui, clairement.
Donc on est sur là-dessus, donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver ces équilibres-là, hein. Il faut, si on veut vraiment aller, hein, sur le côté vegan, il faut vraiment trouver, hein, à en mettre en quantité suffisante pour avoir tous les acides aminés. Donc déjà les bonnes quantités, les bons types de comment dire d'aliments. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels il faut vraiment faire attention? Tu vois, je veux dire. Je sais pas, enfin, c'est toi qui est spécialiste, tu vois, de dire, bah, attention, il y a des choses, il faut les combiner de telle ou telle manière, ou tu vois,
Non,
enfin.
parce que sur les combinaisons, pas spécialement. Après, sur le type de préparation, comment est-ce qu'il faut préparer ça,
Ouais.
on en rediscutera un petit peu plus tard. Mais sur les combinaisons, non. Après, là où il y a un point important, c'est que souvent, là, on parle, tu vois, des protéines, et c'est souvent ce qui est mis en avant.
Ouais.
Mais c'est surtout la partie visible de l'iceberg, je dirais,
D'accord.
protéines. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est surtout ce qu'on va discuter après, tu vas voir. Parce que les protéines, alors, chez les véganes, on a dit, c'est quand même compliqué. Mais si là, on repasse du côté plutôt végétarien, les protéines, c'est pas un problème. En mangeant des œufs, en mangeant du poisson, en mangeant du fromage, on arrive à s'en sortir. Très bien. Avec des quantités suffisantes, il faut faire un petit peu attention avec les mélanges dont on vient de parler là, et on y arrive très bien. Là où il y a un petit problème, avec potentiellement les protéines, le manque de protéines animales, ça va être sur la régulation de la glycémie. Ça, c'est un point important qui est souvent oublié. C'est-à-dire que les protéines, quand on les prend au début du repas, surtout, elles vont avoir un rôle pour réguler la glycémie. C'est-à-dire que, pour schématiser, à la place d'avoir, après notre repas, un pic de glycémie très important, on va avoir quelque chose d'un peu plus plat, une courbe un peu plus plate. Et ça, on sait que sur la santé à long terme, c'est quand même mieux d'avoir une glycémie qui est régulée, et d'où l'importance de consommer, en tout cas à certains moments de la journée, petit déjeuner et le midi, des protéines qui sont suffisantes. Protéines animales, j'entends.
D'accord. Et donc là, on gère ça comment en fait, si tu prends pas de protéines animales?
Ben là, ça va être plus compliqué, clairement, parce que tu vas te retrouver avec des variations de glycémie plus en plus importantes. Et là, tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Tu vas avoir des gens qui tolèrent, plutôt je devrais dire, pardon, qui tolèrent très bien ces variations de glycémie, qui auront pas de problème. Et tu en as d'autres qui, malheureusement, eh ben, ils vont tendre vers gentiment. Et c'est un constat que je fais, hein, vraiment. C'est vraiment ce que je peux voir, qui vont tendre gentiment vers un début de résistance à l'insuline, et puis au fil du temps, prédiabète, diabète, etc. Parce que, bah, comme on a dit tout à l'heure, surtout chez le végétalien, bah, tu te retrouves avec beaucoup de choses très glucidiques,
Ouais.
avec du coup, bah, des grosses variations de glycémie, et les conséquences qui vont avec.
D'un côté purement pratique, mais je me dis, après un repas, quand même, quand t'as autant de glucides à digérer et tout, ça doit être quand même fatigant. Enfin, je sais pas,
Là,
t'as.
je dirais plutôt ce que je disais tout à l'heure, les fibres qui vont être un petit peu compliquées à digérer.
Ouais.
Après, souvent on parle, tu sais, un petit peu le coup de mou après manger.
Ouais.
Ça, c'est pas forcément tout le temps la glycémie, parce que le coup de mou après manger, 30 minutes après, c'est la glycémie, elle n'est pas redescendue à ce moment-là. C'est plutôt le moment où on a justement le pic. Alors, il y en a certaines personnes qui vont mal tolérer cette hyper glycémie, et donc effectivement avec quelques symptômes, des mal de tête par exemple, ou le coup de moins bien. Mais souvent la fatigue, ça va être aussi une mauvaise tolérance, une mauvaise, pardon, capacité digestive. Et donc du coup, bah là, il y a un gros afflux de nourriture qui arrive, et le corps, il faut qu'il les digère. Et donc bah là, il met l'énergie à essayer de digérer, donc bah, du coup, tu te retrouves avec moins d'énergie au niveau cérébral, etc. Mais c'est plus une question de capacité à digérer.
Ok. Est-ce que, alors tiens, je sais pas, après toi qui connais bien le domaine, tu vois, dans l'endurance et tout, donc tu as dit, à l'UTMB, t'as un athlète qui est végétarien,
Un
hein,
VG, ouais,
un végé. On connaît des véganes? Beaucoup ou pas dans l'endurance?
Non, personnellement, j'en connais pas. Des végétariens, il y en a, oui. Des véganes, non. Et après, là, petit aparté qui n'engage que moi, mais il y a aussi des sportifs. Alors, il y en a certains, des très connus qui sont passés dans des reportages sur Netflix notamment. Et ces personnes-là, on ne voit jamais leurs assiettes. C'est-à-dire que tout le monde peut se prétendre d'être végane, etc. Mais on voit jamais ce qu'ils mangent au quotidien. Donc du coup, est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'il y a du marketing derrière? Tu vois, je peux citer un exemple tout bête dans le milieu de l'endurance. C'est le sponsoring. Un athlète qui est sponsorisé par une marque X, il va montrer avant la course son package de ravito avec la marque X. Sauf que je peux t'assurer que en course, il va consommer autre chose que la marque X. Voilà. Donc après, il y a ce qu'on veut bien montrer et la réalité.
T'es juste en train de nous dire que les bidons ne sont que des bidons et que enfin des marques, mais que l'intérieur, c'est pas la vraie marque en fait, hein.
Ah bah potentiellement, il y a des marques que les coureurs vont consommer, mais après ils vont aussi consommer d'autres choses qui ne sont pas de leur sponsor direct. Mais c'est pareil dans d'autres. On prend le cyclisme par exemple. Il y a des vêtements que des cyclistes veulent porter, des vestes notamment en hiver ou sur les Flandriennes quand il pleut. Leur sponsor n'ont pas. Et ben le sponsor il autorise même d'ailleurs à que le coureur court avec une autre marque en enlevant le logo. Ben voilà. Mais c'est des choses connues dans le milieu du sport. Donc là pour revenir à ce que tu me demandais, ben voilà, il y a certains véganes qui sont sponsorisés par des marques véganes qui vont effectivement dire qu'ils le sont. Est-ce qu'ils le sont vraiment? On ne sait pas. Et après, bah on en rediscutera, mais la liste de compléments alimentaires qu'ils doivent prendre, on ne la connaît pas non plus et on ne voit pas non plus leur prise de sang pour savoir est-ce qu'il y a des carences ou est-ce qu'il n'y en a pas.
Ouais, parce que tu vois, ces sujets-là, en fait, on a tous en tête, on a tous vu, tu vois. Alors notamment à une époque, je sais plus quelle influenceuse qui s'était remise à manger du poisson, alors qu'elle était végane, et les gens disaient, oh, mais pourquoi tu manges du poisson et tout, alors que t'étais végane, etc. Et qui avait dû expliquer qu'elle avait des carences, etc. Il y en a. L'autre jour, j'ai vu un mec là aux États-Unis, je sais pas si t'as vu ce mec là qui bouffe 100 ou 200 pilules par jour pour essayer de rajeunir. Mais c'est juste intenable. Et en fait, t'as raison de le dire, ces trucs-là. C'est-à-dire que on voit la face de ce qu'ils annoncent, de ce qu'ils mangent, etc. Mais des fois, il y a des tas de trucs qu'on voit pas, et peut-être que certains sont obligés de compenser des carences parce qu'il y a des choses, notamment, qui sont absentes totalement dans le végétal, et qu'il faut trouver des sources, et que ces sources-là, on peut pas les trouver par le végétal. Il faut le trouver soit en faisant des dérapages dans un sens ou dans l'autre, soit en prenant des pilules, quoi.
Exactement.
T'as un exemple?
Oui, clairement. Bah, ne serait-ce que si on part par exemple sur la vitamine B12, qui est absente totalement du règne végétal, on va la retrouver uniquement dans le règne animal. Là, chez les végétariens et les véganes, ça va. Alors surtout chez les véganes, ça va poser problème. Et donc là, on est obligé de se supplémenter. Il y a des gens qui ne le font pas, mais sur le long terme, ça va quand même poser quelques problèmes.
Quel genre, par exemple?
Bah, il suffit de voir un petit peu à quoi sert la vitamine B12. La vitamine B12, elle sert à la synthèse d'ADN, au système nerveux pour la gaine de myéline au niveau neuronal. Elle sert à la synthèse des neurotransmetteurs, l'acétylcholine par exemple, pour tout ce qui est mémoire, apprentissage, etc., et d'autres neurotransmetteurs. Et ça sert à un dernier point, c'est la régulation de l'homocystéine dans la méthylation, qui va, bah, si on a une augmentation de l'homocystéine par manque de vitamine B12, on va se retrouver sur le long terme avec des risques cardiovasculaires et de déminéralisation, pardon, osseuse. Voilà. Mais ça, c'est des choses sur le très long terme, ou long terme, je devrais dire, parce que la vitamine B12, on a un petit stock interne de quelques milligrammes. Donc du coup, une personne qui se met avec un régime où elle ne consomme plus de vitamine B12 et qu'elle ne supplémente pas, elle va utiliser son stock petit à petit. Et donc, on va se retrouver avec des symptômes qui vont se mettre en place, mais vraiment très doucement, en quelques, c'est une question d'années même. Parce que voilà, on pioche dans son petit stock au fur et à mesure, on pioche sur ses économies, on pioche sur son livret A.
Ouais.
Sauf que ben au bout de 5 ans ou 3 ans ou 2 ans si on fait beaucoup de sport et que les besoins sont accrus, et ben on va se retrouver avec plus d'argent sur son livret A. Sauf que en fait, la problématique c'est que on a plus d'argent, mais est-ce qu'on va faire le rapprochement entre le fait qu'on ne consomme plus de B12 et le fait qu'on ait ces symptômes, parce qu'on a arrêté de consommer de la B12 il y a 2, 3, 5 ans.
Et oui.
Souvent, le problème, il est là.
Sur la B12, si on n'en trouve pas dans le végétal, donc on est obligé de se complémenter.
Oui, clairement. Lorsqu'on a un régime vegan, je pense qu'on est obligé de se complémenter. Alors, bien évidemment, il faut faire une prise de sang pour vérifier et suivre aussi dans le temps. Mais oui, il faut supplémenter avec une petite dose quotidienne et il n'y a pas de problème avec ça.
Il y a d'autres trucs, tu aurais d'autres exemples comme ça, parce qu'on ne va pas faire la liste de tout ce qui est absent, mais je pense qu'il y a peut-être des trucs où il y a des fois, il va y avoir des débats aussi. Tu sais, moi, j'ai vu des débats, par exemple, sur le collagène. Alors, on n'a pas prévu de parler du collagène dans cette histoire-là, mais j'ai eu des gros débats sur le collagène, est-ce qu'il faut en prendre, pas en prendre, mais les sources de collagène aussi là-dessus. Je sais pas, par exemple, le collagène qu'on trouve notamment dans les cartilages, dans les os, etc. On en a besoin d'en prendre ?
Alors, on a une production impropre qui va diminuer avec le temps.
Ouais.
Et après, ça va dépendre de si on consomme suffisamment d'un acide aminé qui est la glycine, notamment, dans son alimentation. Donc, si on consomme pas suffisamment de glycine, bon, déjà, il y a plusieurs problématiques, et pas que le collagène, mais je commencerai par peut-être consommer de la glycine, dans ce cas-là, qui est un acide aminé, et qui, maintenant, est fabriqué à partir de sources non animales. Donc, on n'a pas de problème si on est végétarien à en consommer. Et par contre, le collagène, si on veut en consommer, on va se retrouver un petit peu bloqué parce qu'on a d'un côté du collagène bovin, de l'autre du marin. Certaines marques se risquent un petit peu à faire du collagène qu'ils appellent végétarien à partir de d'œufs, etc. Mais pour le moment, ça reste quand même très marginal avec des quantités moindres. Et bon, voilà. On se retrouve quand même un petit peu bloqué de ce côté-là. Donc, on peut partir sur la glycine. C'est ce que je conseille en règle générale, même chez des personnes qui ne sont pas sur un régime végétal. Et s'il y a des spécificités, des cas particuliers, des blessures et autres, là, pourquoi pas envisager le collagène s'il n'y a pas de consommation de collagène dans l'alimentation.
Ouais, mais c'est là où après, comme tu le dis, hein, on est un petit peu obligé, si on est vegan, ça devient compliqué, quoi. Ouais, mais c'est là où on voit, hein, il y a des trucs où quand on a un régime, on va dire, alors le fameux flexitarien, hein, on va dire qu'on mange de tout, on fait pas trop attention à certaines choses, les sources, etc. Où là, on se rend compte tout d'un coup, quand on rentre dans ces types de spécificités de régimes plus spécifiques, où tout d'un coup, il y a plein de choses où on se pose la question des sources, ce qu'on peut prendre, pas prendre, etc. Où ça devient plus compliqué quand même, les histoires. Et d'ailleurs dans la liste après je vois que on parlait des oméga 3 aussi et là c'est pareil cette histoire là là aussi c'est pas si simple que ça non ?
Ouais, franchement c'est un petit peu compliqué et il y a un petit peu je dirais une politique de l'autruche tu vas comprendre pourquoi de la part de certaines personnes qui vont défendre un petit peu ça parce que dans les oméga 3, on a deux familles. On a les oméga 3 de la famille végétale, on va appeler ALA, et on va avoir les oméga 3 marins, qu'on va appeler EPA et DHA. Et donc du coup, normalement, on doit avoir la capacité. On a en tout cas notre génome, il est prévu pour convertir l'ALA en EPA DHA. Donc ça, c'est sur le papier. Donc c'est pour ça, on a une partie du discours qui est de dire, en consommant des noix, en consommant de la cameline, etc., d'huile de lin, graines de lin, etc., on va pouvoir avoir de l'ALA et ensuite qui va être transformé. Mmh. Ok, ça c'était sur le papier. Mais en fait, la problématique, c'est que on a des polymorphismes génétiques. Alors, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais on a deux gènes, FADES1 et FADES2, qui codent en partie pour les enzymes qui permettent de convertir l'ALA en EPA et DHA. Et on sait aujourd'hui qu'on a des polymorphismes, notamment en Europe, dans certains pays, où ces enzymes ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire que on a en Asie 70% des personnes qui savent faire cette conversion correctement. Mmh. Par contre, en Europe, c'est à peu près 17%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 17% de la population, et ouais. C'est encore moins chez certains types de populations. Et donc, je reviens à mes Européens, 17% qui savent convertir l'ALA en EPA-DHA. Et donc, on se retrouve avec une carence d'EPA-DHA si on ne consomme pas de petits poissons gras.
Ouais.
Donc en fait, là où je reviens à ma politique de l'autruche, en fait, c'est que, ok, sur le papier, on est censé pouvoir faire cette conversion, mais en réalité, il n'y a que 17% de la population européenne qui sait la faire, enfin, qui est en capacité de la faire. Et ça, on peut le vérifier en faisant un profil en acide gras érythrocytaire. J'explique ce que c'est. C'est une analyse de sang, alors dans des labos spécialisés, hein, ça se fait pas dans le labo du coin, mais qui va permettre de vérifier comment sont composées nos membranes cellulaires au niveau profil lipidique. On a les acides gras d'un côté qui vont permettre la rigidité de la membrane, et de l'autre côté, on va retrouver les acides gras polyinsaturés, dont les oméga 3, qui vont permettre la fluidité de la membrane. Et en analysant la composition, on est capable de voir si on a suffisamment de PA, suffisamment de DHA, suffisamment d'ALA, etc. Et quand je fais ça chez des sportifs, eh ben, je me rends compte systématiquement qu'il y a une carence en EPA-DHA si la personne ne mange pas des petits poissons gras. Et pourtant, la personne a suffisamment d'ALA. Ouais. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma pratique, une personne qui avait une conversion fonctionnelle. Donc, il faisait partie des 17% où, sans consommer de petits poissons gras, c'était OK. Par contre, tous les autres, systématiquement, il n'y a pas assez de PADHA. Voilà. Donc, en gros, si on fait partie, enfin, si on ne fait pas partie du coup des 17%, eh ben, on est obligé, pour être en bonne santé, on pourra reparler des conséquences de ne pas manger suffisamment de PADHA, mais on se retrouve obligé de consommer directement des EPA-DHA.
Sous quelle forme?
Soit des petits poissons gras, sardines, maquereaux, truites, etc. Soit en supplément.
D'ailleurs, je suis en train de chercher, mais oui, on voit souvent ces trucs-là sur les trucs, hein, à droite à gauche.
Ouais, après, la problématique de la supplémentation, je fais une petite aparté, la supplémentation d'oméga 3, je ne conseille pas forcément, sauf parfois quand une personne veut rester, elle me dit, moi, je veux rester végétarienne, je lui explique pourquoi je ne conseille pas les gélules d'oméga 3, mais si elle veut quand même rester dans cette démarche, forcément, je vais lui en conseiller, d'en consommer tous les jours, en quantité suffisante, mais là où je déconseille, c'est à cause de la peroxydation lipidique. C'est-à-dire que les oméga-3, dans la matrice alimentaire, dans l'aliment, ils ont une protection. Ils sont protégés, c'est-à-dire que tu peux cuire tes aliments, alors sans les faire griller, hein, bien évidemment, mais cuire une cuisson douce, tes poissons, tu auras toujours les oméga-3 que tu peux consommer et que le corps sait utiliser. Par contre, une fois mis dans la gélule, alors déjà, est-ce que la personne a fait le job correctement, l'industriel ? Il y a une première problématique. Ceux qui le font bien, ils donnent un indice totox. C'est un taux de peroxydation où quand le produit sort de l'usine, il a un totox inférieur à tant et le produit est de qualité, on peut le consommer. Sauf qu'ensuite, le produit, il est transporté, il est stocké. Est-ce qu'il a été stocké à la chaleur? Est-ce qu'il a été stocké dans des frigos? Est-ce qu'il a été stocké au congélateur? Ensuite, il est stocké un certain temps aussi. Il est transporté. Et la semaine dernière, c'était canicule. Combien de temps le livreur de la poste l'a gardé dans son camion par 40 degrés? Ensuite, ça arrive chez vous. Est-ce que vous le stockez au frigo? Est-ce que vous le stockez dans la cuisine? Est-ce que vous le stockez au congélateur? Et l'autotox qu'on avait en sortie d'usine, est-ce que un an après, parce que peut-être que ça fait un an qu'il a été produit, et ben, où est-ce qu'on en est de ce niveau? Et bah, les études montrent qu'il y a quand même des risques. Et bah, là où on a tout l'intérêt de consommer des oméga 3, et ben, on se retrouve du coup derrière avec bah, des, un produit qui va plutôt être délétère qu'intéressant pour la santé, parce que bah, c'est totalement oxydé, donc le corps il doit s'en débarrasser.
Et pourtant, c'est important d'avoir des oméga 3.
Hein. Eh oui, exactement. Donc, c'est pour ça que la source alimentaire est à privilégier. Mmh. Et ensuite, si vraiment on veut pas, on n'aime pas le poisson, on est intolérant, on est allergique, et ben dans ce cas-là, oui, oméga 3, mais il faut s'assurer de la qualité, vraiment, et stocker, je dirais même au congélateur quand c'est chez vous, si c'est sous forme de gélules. Mmh.
C'est quoi les conséquences d'une carence en oméga 3 en fait?
Alors, il y en a plusieurs. Comme je disais tout à l'heure, au niveau cellulaire, il participe à la fluidité membranaire. Ça, c'est le premier point. Donc, pour qu'il y ait des échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, il faut une bonne fluidité membranaire. Donc, il faut des oméga 3. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'inflammation.
Ouais.
En gros, ça, c'est un peu c'est le gros sujet. C'est-à-dire que, on a besoin d'oméga 3 pour une bonne gestion de l'inflammation. Et donc, toutes les maladies chroniques qui sont liées à l'inflammation, Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies chroniques du style Crohn, polyarthrite rhumatoïde, etc., ça va être intéressant. Ça va être aussi intéressant pour les diabétiques, ça va être intéressant pour les risques cardiovasculaires, et puis toute la partie neuro également. Mais là, c'est pareil, c'est des conséquences long terme. C'est-à-dire que c'est potentiellement, on peut reprendre par exemple Alzheimer, on n'aura pas Alzheimer à 30 ans.
Non.
On a plutôt Alzheimer en fin de vie, et ça peut être expliqué en partie par une carence en oméga 3.
T'es en train de faire peur à tous ceux qui n'en mangent pas assez, hein, je te signale. Hein.
C'est une des plus grosses carences dans l'alimentation, clairement. Si on peut se faire une petite pub à NutraStream, qui en fait un petit peu son cheval de bataille, les oméga 3, mais clairement il a raison, parce que c'est, je dirais, peut-être dans le top 3 ou dans le top 5 des carences.
Ouais.
Mais invisible pour le coup, parce qu'elles mettent beaucoup de temps à s'installer, et on en paye plutôt les conséquences après quelques années.
Ouais, et puis je suis même pas certain que, enfin, je sais pas, est-ce que les médecins et tout, ils sont vraiment capables de détecter ce type de carence en fait. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas si évident que ça, tu vois. Tu me disais tout à l'heure, il y a la petite batterie interne là de B12 qui se vide au bout de quelques années et tout, mais c'est pas si évident que ça à détecter en fait que ça peut venir de.
Alors la B12, elle est faite de temps en temps par les médecins en contrôle sur la prise de sang. Après, bon, il reste la problématique des normes, et on en avait discuté dans le précédent podcast de ce sujet-là. Mais la B12, elle est quand même globalement vérifiée. Mais les oméga 3, non, ils le sont pas. Et puis même, je vous invite simplement, est-ce que la dernière fois que vous avez été chez votre médecin, est-ce qu'il vous a demandé ce que vous mangez au quotidien? Je pense pas. En général, ils font pas d'anamnèse alimentaire, ils ont pas le temps. Donc, non, c'est clairement pas dans leur cheval de bataille.
Ouais. Bon, un truc par contre qui est plus dans le cheval de bataille, ils vérifient plus, c'est le fer. Hein, on va passer à l'étape suivante.
Oui.
Normalement, le fer, ils vérifient régulièrement quand même.
Oui. Oui, oui. Là, le fer, effectivement, c'est vérifié régulièrement. Alors, c'est pareil. Puis je vous renvoie au précédent podcast qu'on avait fait aussi sur cette partie-là. Mais est-ce qu'ils vont faire le métabolisme du fer dans sa totalité ou pas? Si on s'arrête qu'à la ferritine, on loupe une bonne partie de l'équation. Il faut vraiment faire le métabolisme complet pour avoir une vision vraiment complète du fer. Mais le fer, si on en revient à notre régime un petit peu végétal, c'est un grand classique pour le coup, parce que là aussi, on va dire, on a du fer qu'on appelle héminique dans le règne animal, et on a du fer non héminique dans le règne végétal. Il y a l'exception des œufs, qui est du fer non héminique, végétal.
D'accord.
Et l'absorption va pas être identique entre les deux mondes. Et donc, du coup, on se retrouve avec des besoins qui sont très augmentés chez les sportifs d'endurance, qui sont aussi augmentés chez la femme.
Mmh.
Et on va potentiellement se retrouver très rapidement en déficit chez ces populations.
Le fer, enfin, on en trouve dans les végétaux, du fer, tu viens de le dire et tout.
Ouais.
Mais est-ce que, tu sais, moi, j'ai toujours entendu l'histoire de Popeye et le fer dans les épinards, etc. et tout. Là, on a cette espèce de légende, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, du fer dans les épinards.
Non, clairement pas, il n'y en a pas tant que ça, effectivement. Il y a à peu près 3 mg au 100 g. Donc c'est peu. Là où on retrouve du fer dans le règne végétal en quantité, c'est surtout dans le soja,
ouais,
dans les lentilles, dans le sésame, les haricots, le quinoa, etc. Après, la problématique, ça reste toujours une problématique de disponibilité du fer, parce que le fer non héminique est moins bien absorbé et on va avoir des problématiques d'absorption. Parce que on a des antinutriments, l'acide phytique notamment, l'acide oxalique, etc., qui vont bloquer l'absorption de ce fer dans le règne végétal. Mmh. Et donc, si on ne prépare pas bien les aliments, les légumineuses par exemple, si on ne les fait pas tremper, si on ne les fait pas germer par exemple, eh ben on va pas pouvoir absorber en totalité le fer qui est présent. Donc on peut avoir effectivement, on va vous dire que les lentilles, c'est 9 mg de fer au 100 g.
Ouais.
C'est même plus que 100 g de viande rouge. OK. Mais dans ces 9 mg, qu'est-ce qui va être réellement absorbé? Déjà, c'est moins bien absorbé que le fer héminique. Et en plus, si les lentilles n'ont pas été trempées toute la nuit, rincées et cuites d'une bonne façon, au final, il reste plus grand-chose. Et il y a même encore d'autres, le cacao, le café, le thé, tout ça, c'est aussi des choses qui vont bloquer l'absorption du fer. Donc, vous prenez votre tasse de thé ou votre tasse de café après avoir mangé des lentilles, vous pensez avoir bien fait, vous n'avez pas bien préparé vos lentilles, eh ben, il restera plus grand chose à la fin.
Oui.
Donc ça, c'est une vraie problématique. Et il y a aussi, bien évidemment, une problématique de quantité. Vraiment. Les apports journaliers recommandés en fer chez la femme, c'est à peu près 15 mg.
D'accord.
Chez l'homme, c'est une dizaine de mg. Ça, c'est chez le sédentaire. Chez le sportif d'endurance, on va avoir beaucoup de besoin en fer, donc ça va augmenter. On n'a malheureusement pas de chiffres, de valeurs recommandées, mais ça augmente fortement. Donc, je vous disais, chez une femme qui est encore réglée, 15 mg.
Mm.
Si on prend 100 g de viande rouge, c'est à peu près 5 mg.
Ouais.
Si on prend, c'est si on a mangé ça le midi, par exemple. Le soir, si on prend 100 g de lentilles et qu'on les a bien préparées et qu'on a fait attention à tout ce que j'ai dit avant, on va encore récupérer une petite dizaine de mg.
Mm.
Voilà. Et puis tout ce qu'on a mangé un petit peu à côté, ça va faire le job. Mm. Sauf que qui a mangé un steak tous les midis? Qui a mangé 100 g de lentilles bien préparées tous les soirs?
Ah bah,
je pense
moi.
Que voilà. Mais bon, t'es un homme, l'homme, le besoin est un peu moindre. Mais clairement, le fer, c'est, je dirais, le top 3 dans les carences,
ouais.
Clairement. Et d'autant plus chez la femme, c'est vraiment un grand classique. Je vois très rarement des femmes qui ont un taux de fer qui est vraiment optimal et qui pratiquent le sport. Et là, c'est pareil, je vous renvoie aux normes des labos. La norme santé du stock de ferritine, c'est plutôt entre 60 et 100, on va dire autour de 70-80, et non pas les 20 ou 25 qui sont la norme basse. Là, les personnes, elles peuvent avoir des symptômes. Et il y a un point important, souvent, c'est qu'on va rapporter la carence en fer à l'anémie. On va vous dire, bah, ok, votre taux de ferritine est un peu bas, mais vous n'êtes pas anémié. Donc, pas de problème. Sauf que le fer ne sert pas qu'à faire de l'hémoglobine. Il sert aussi pour le système immunitaire, il sert aussi pour les hormones thyroïdiennes, il sert aussi pour les neurotransmetteurs. On peut très bien avoir des femmes qui sont, ou des hommes d'ailleurs, qui sont en carence de fer, mais pas forcément anémiés. Parce que le corps, il a une capacité à prioriser un petit peu comme il le sent, comme il a besoin. Et donc, il va peut-être utiliser le fer pour créer de l'hémoglobine, mais le peu qu'il a, et du coup, pas d'anémie. Mais par contre, toutes les autres voies où il y a besoin de fer, il y en a plus assez. Par contre, à l'inverse, c'est d'autres personnes, eh ben, il va pas utiliser le fer pour l'hémoglobine et donc la personne va se retrouver anémiée. Mais par contre, sur les autres voies métaboliques, on n'aura pas de problème. Donc, faut faire attention. C'est pas parce que il y a pas d'anémie que il n'y a pas de carence en fer. Et attention aussi aux normes, qui sont utilisées. Il faut viser, si on parle de la ferritine, plutôt entre 60 et 80, comme je disais.
Ouais. Non, mais en plus, le fer, c'est compliqué parce qu'avant, il y a l'alimentation. Alors, quelqu'un qui mange de la viande et tout, même en mangeant de la viande, je pense, et c'était intéressant l'exemple que tu tenais, je pense qu'on est en carence assez rapidement parce qu'il y a quand même on trouvait par exemple, dans le foie, il y a beaucoup plus de fer, dans le boudin, moi, je parle souvent du boudin, mais on a plus de fer et tout. Et c'est pas forcément les morceaux, en plus, après les scandales alimentaires qu'il y a eu, etc. Dans les abats, on n'en mange plus beaucoup. En plus, moi, j'aime pas ça. Je pense que même des gens qui mangent de la viande, déjà en fer, on peut en manquer relativement facilement, surtout les sportifs, etc. Oui. Parce que finalement, on n'en mange pas. Alors, les quantités, tu l'as dit, on mange pas forcément de la viande tous les jours. C'est pas d'ailleurs ce qu'on peut recommander systématiquement et tout. Mais en plus, il y a la quantité, en plus il y a les morceaux, etc. Ça varie. Donc c'est vrai que c'est un point, je pense que tous les sportifs doivent, et tout sportif et tout sportif doivent faire attention là-dessus. Mais c'est vrai que, comme on disait, hein, là on est sur le végétarien, vegan, etc. On rajoute en plus un risque complémentaire, quoi.
Oui, ça rajoute clairement un risque. Mais tu fais bien de le dire parce que même chez des personnes qui pourraient se qualifier de flexitariens, donc qui consomment un peu de viande rouge, et ben parfois chez les sportifs d'endurance ça ne suffit pas, surtout chez les femmes. Chez les hommes, en règle générale, je dirais c'est plutôt du 50-50. Il y a des personnes qui vont avec qui ont une bonne absorption du fer végétal et qui vont très bien s'en sortir. Chez les femmes, à cause des pertes menstruelles, on se retrouve là avec une contrainte de plus. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc même chez des flexis, on peut avoir le problème. Et il faut vraiment le prendre au sérieux parce que ça m'arrive très régulièrement que des femmes me contactent pour un suivi, on vérifie la prise de sang, etc. Et les femmes me disent bah, mon taux de fer, il est à 15, il est à 20, il est à 25, mon taux de ferritine. Mais il a toujours été comme ça, mais ça va. Et de toute façon, il remonte pas. Ah bon ? Mais pourquoi ? Bah, je sais pas, c'est comme ça, ça remonte pas, ça fait depuis 10 ans que c'est comme ça, 15 ans, 20 ans. Ok, mais en faisant des bonnes choses dans l'alimentation, en corrigeant l'assiette et en mettant une supplémentation si nécessaire, on retrouve un taux de fer tout à fait correct, hein, sans aucun problème. Alors, parfois, on peut avoir des problèmes d'absorption, mais ça aussi, il faut les corriger. Et parfois, il faut garder un petit complément de fer chez les femmes qui ont un gros volume d'entraînement, là, 15, 20, 25 heures semaine, parfois chez certaines. Là, il faut savoir garder et contrôler parce que l'excès de fer va aussi être délétère. Donc, il faut pas non plus supplémenter à l'aveugle. Cette partie-là, ça, c'est important de le dire. Mais il faut, chez certaines, il faut pas hésiter à mettre un petit complément de fer parfois 5 jours sur 7, par exemple, ou un jour sur 2, etc. En fonction, là, c'est vraiment du cas par cas.
Ouais. Et dans ma liste, j'avais marqué que le carré, les chocolats noirs contenaient du fer. Mais c'est pas une source intéressante, hein, parce qu'il faut en manger
beaucoup.
Non,
c'est pas une source intéressante, surtout qu'il y a de l'acide oxalique et des tanins dans le café, dans le cacao, pardon, qui vont bloquer l'absorption du fer. Donc, je reviens à mon exemple tout à l'heure. Si vous mangez des lentilles, vous les avez pas bien préparées, vous prenez un carré de chocolat, prenez du café, ah bah, il reste plus grand chose à la fin.
Ouais, puis en plus j'avais vu que pour avoir les quantités, il fallait manger une tablette de chocolat complète hein, pour arriver à peu près à avoir
Ouais.
le
Sur
chiffre
le
en
vélo,
plus.
tu peux peut-être y arriver, mais.
Ah mais sur le vélo on peut manger tout ce qu'on veut de toute façon. Moi c'est un truc que j'ai découvert. Même si je me fais un peu engueuler après par me dire mais qu'est-ce que tu bouffes là sur ton vélo, c'est pas possible. J'ai des remarques de gens qui disent mais c'est pas possible de manger ça et tout. Mais ceux qui font du vélo comprennent. C'est vrai, on peut manger quand même beaucoup plus de choses qu'en courant et ça c'est vrai que c'est quand même un avantage.
Ah oui.
On pourrait presque avoir un débat sur finalement est-ce qu'il n'est pas plus facile d'être végétarien ou vegan quand on est cycliste que quand on est coureur finalement pour ces histoires d'absorption, de fibres, de digestion et
Ah oui,
compagnie.
certains, clairement oui. Je pense qu'effectivement c'est plus simple. Et puis il n'y a pas les chocs de la course à pied qui vont casser de l'hémoglobine,
Ouais.
les globules rouges. Et donc du coup, on a vraiment moins de risques que quand on fait de la course à pied, ouais.
Eh ben tu vois comme quoi, je pensais dire une connerie, mais même pas.
Même pas, oui.
Bon allez, on va continuer sur notre liste. Tiens, t'avais marqué le zinc dans la liste. Alors lui, moi j'y pense pas du tout. Déjà parce que je n'ai pas idée de à quoi sert vraiment le zinc en fait.
Alors, ça sert à plusieurs choses. Système immunitaire, synthèse protéique, c'est-à-dire que quand on veut créer des nouvelles protéines, on a besoin de zinc, et synthèse de l'ADN. Métabolisme de l'insuline, tout ce qui va être lié, bon là ça va peut-être plus intéresser les femmes que les hommes, mais les fanères, la peau, les ongles, les cheveux, etc. Et puis, le point important aussi, c'est... On appelle ça un cofacteur pour les enzymes, c'est-à-dire que ça va servir de brique un petit peu pour faire fonctionner nos enzymes, que ce soit la thyroïde, les neurotransmetteurs, etc.
Là encore, c'est quoi le risque en fait quand on est dans ce type de régime-là? Parce qu'on trouve où le zinc?
Alors là, par contre, le zinc, on le trouve dans le règne végétal, dans le règne animal, on le retrouve des deux côtés sans aucun problème. Le souci, ça va être que, pareil, une problématique d'absorption. L'acide phytique, notamment, qu'on a cité pour le fer, il va aussi bloquer l'absorption. On parle de chélation. Il va chélater le zinc. Et donc, on se retrouve avec un zinc qui est quand même bien moins absorbé que dans le règne végétal que dans le règne animal. Mais de toute façon, le zinc chez le sportif, ça reste une grosse problématique parce que les besoins, ils sont vraiment très augmentés, notamment liés à tout ce qui va être les protéines, parce qu'on a un turnover protéique plus important que le sédentaire, et liés aussi au stress oxydatif. Quand on produit de l'énergie, on produit des radicaux libres, on a besoin d'un mécanisme antioxydant qui va faire son travail, et on a besoin notamment de zinc. Et donc du coup, chez les sportifs, on a un besoin qui est accru. Et pour la petite anecdote, j'ai des prises de sang de zinc bien mieux chez des sédentaires que chez des sportifs.
D'accord.
À cause de ça. Vraiment, les besoins, ils sont vraiment très, très importants. Et donc, là, il faut y faire attention, mais il faut y faire attention dans tous les cas, qu'on soit dans un régime végétarien, vegan ou même qu'on consomme des produits animaux, il faut quand même faire attention au zinc et supplémenter si nécessaire.
D'accord. Tiens, alors c'est une parenthèse, parce que tant qu'on parlait, j'étais en train de chercher mon histoire de cycliste vegan, et tu sais quoi, je me suis rendu compte que ça te dit quelque chose, Simon Gaethje, comme cycliste professionnel qui était chez Cofidis, qui a gagné l'étape du Tour de France et tout. Et ben, il y a un article de Libération, alors je mettrai le lien quand même, qui explique que il est vegan en fait, hein, que son équipe le sait, gère, ils ont un peu de logistique à gérer. Et ben, il se complémente en vitamine D, en fer, en zinc et en B12. Tiens, tu vois, on a quasiment tout cité. On n'a pas cité la vitamine D dans notre histoire aujourd'hui, mais le reste, tu vois, le bingo des compléments, tu les avais tous.
Ah, il lui en manque un, à mon sens, mais.
Ouais, il en manque un. Ouais, c'est lequel?
Alors, tu m'as dit oméga 3 ou pas? Tu m'as pas dit?
Eh ben non, c'est marrant, tu vois, non.
Alors,
Il
il
y a
en manque
pas,
2.
il en manque deux. Ouais, il en manque. Ouais, je vois lequel parce que moi j'ai la liste. Mais c'est intéressant. Donc ça montre quand même que il est cycliste professionnel. Hein, on dit il a gagné du Tour de France, etc. Et en fait, en disant que ouais, il est vegan, naturel, sans additifs, sans OGM. Ils essayent d'avoir des produits de ce type-là, en fait, d'avoir des de tout un tas de
Après,
compléments.
dans les équipes, alors surtout maintenant dans les équipes pro du World Tour en cyclisme, il y a des personnes très compétentes sur la partie nutritionnelle.
Ouais.
J'échange parfois avec eux et ils sont capables de faire un vrai suivi.
Ouais.
Et c'est là où ça fait une petite passerelle, mais c'est important de d'être suivi pour faire des choses comme ça, surtout chez un élite, chez un professionnel, parce que déjà c'est une charge mentale en moins. Quand ils sont sur un Tour de France, c'est pas eux qui vont réfléchir à ce dont ils vont manger. Il a fini son étape, on lui a déjà préparé sa collation qui est vegan, son repas du soir il sera vegan, il aura pas besoin de réfléchir à préparer ça de telle manière, etc. Tout est déjà planifié. S'il y a besoin de prendre des compléments, la liste de compléments elle est là. Il fera une prise de sang après, le médecin il va checker la prise de sang et il va lui dire ce qu'il faut faire exactement.
Ouais.
Et c'est là un petit peu le piège de c'est que il y a des athlètes qui vont se dire bah lui il est vegan ou il est végétarien, cet athlète là il fonctionne très bien, mais je vais faire pareil. Sauf que derrière on n'a pas le staff, ou sinon il faut le mettre en place ce staff pour faire la même chose, tu vois.
Ouais. Et tiens, alors je finis mon anecdote parce que tu verras, repas du soir, parce qu'il y a des trucs que tu as cités, salade de lentilles, tiens, tu en parlais tout à l'heure, tu vois, avec des graines de courge, du tofu et une sauce cacahuète, tu vois, pour avoir des...
Ouais,
tu vois, mais il a vraiment son plat spécifique, tu dis, dans le suivi, etc., son équipe sait comment le faire, enfin, c'est géré, il y a un nutritionniste, cuisinier, etc., et tout, il y a vraiment un gros suivi, et aussi, ils disent, d'ailleurs, qu'il mange plus, il mange des quantités plus importantes que ses camarades, aussi, ben, pour avoir les apports nécessaires et des sujets qu'on a portés, mais comme quoi, hein, tu vois, je me posais la question de savoir si on pouvait être sportif professionnel et vegan, a priori, il y en a certains qui arrivent à le faire, mais effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de suivi. Qu'est-ce qui nous manque aussi? Attends, parce que on a dit Gaëchke là les compléments. Tu aurais complémenté en quoi de plus toi?
Q10.
Q10.
Enzyme Q10.
Ouais.
Ouais. Pour moi, c'est le dernier de la liste où il faut faire attention dans le régime, dans les régimes à tendance végétale, parce que le Q10 chez le sportif, c'est un antioxydant. Donc de la même manière, tout ce que j'ai dit sur le zinc, sur le stress oxydatif, c'est valable pour le Q10. Et on a besoin de Q10 aussi dans la mitochondrie pour faire passer les électrons au niveau de la chaîne respiratoire. Et donc, forcément, chez le sportif, on produit plus d'énergie qu'un sédentaire. Donc, on a besoin de plus de coenzyme Q10. Et donc, on a une production en propre de Q10 qui diminue avec l'âge. Et après, c'est comblé via l'alimentation. Et là, bah, le gros de l'alimentation, c'est les produits animaux. Donc, si on consomme pas de produits animaux suffisamment, eh ben, on va se retrouver avec un coenzyme Q10 qui est trop bas. Et les risques, ils sont surtout, je dirais, alors, sur le plan du stress oxydatif, comme je disais tout à l'heure, il faut voir ça un peu comme on s'oxyde plus vite, on vieillit plus vite, nos cellules, elles sont abîmées plus vite, etc., si je schématise. Et, risque cardiovasculaire aussi, parce que c'est dans le cœur qu'on a le plus de Q10 pour faire fonctionner le muscle cardiaque. Donc du coup, bah là c'est pareil, c'est des problématiques comme les oméga 3 plutôt long terme, où on va se retrouver avec des problématiques cardio parce qu'on manque de Q10.
Le Q10, on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent.
On en avait effectivement parlé parce que c'est un classique de carence chez les sportifs, comme le zinc, parce qu'on en a d'autant plus besoin. Et pareil, un petit peu, j'ai plus souvent des Q10 corrects, voire même très bien chez les sédentaires que chez des sportifs. D'autant plus quand le niveau, là je pense à un athlète élite, équipe de France de trail, qui a beau manger... consommer de la viande régulièrement, qui a un taux de Q10 bas, voilà, parce que le besoin est très augmenté.
Ouais, et j'avais dû te faire la blague, je sais pas si je t'avais fait, qu'on pouvait mettre du Q10 sur, c'était bon pour la peau, parce qu'il y a plein de marques de beauté qui mettent du Q10 dans toutes leurs pubs, dont des marques qui sont très chimiques d'ailleurs, hein, mais qui mettent du Q10 en pagaille.
Exactement.
Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le Q10, mais je pense que plein de gens aussi, hein, quand on parle de Q10, il y a la pub qui revient, etc.
Ça compense en premier, parce que c'est passé à la pub à la télé.
Ouais. Mais c'est vrai, voilà. Donc, il n'y en a pas que besoin que pour la peau, et notamment, parce que tu as parlé des mitochondries, hein, rappelons quand même que les mitochondries, c'est quand même la production d'énergie, qu'on a besoin de cette fameuse énergie, nos petites centrales nucléaires. Et là, je vous renvoie notamment avec l'épisode qu'on avait fait avec Anthony Berthoud, où il a vraiment expliqué les mitochondries, l'importance, oui. À quel point, parce que c'est vraiment ouais, son cheval de bataille.
C'est son cheval de bataille, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Et donc, c'est vraiment un épisode très intéressant. Donc, c'était un épisode qu'on avait diffusé il y a quelques semaines. Je mettrai le lien, bien entendu, parce que vraiment, ça fait partie des sujet important. Il y a quand même un point qui est vraiment au cœur hein, de ce que de la discussion depuis tout à l'heure, c'est que tu l'as dit, on en a parlé pour Geschke, pour les sportifs professionnels, etc. C'est que quand même l'importance du suivi, de savoir ce qu'on fait, hein, est super important. C'est-à-dire que déjà quand on fait du sport, on voit qu'on peut avoir des carences complémentaires qui peuvent arriver. Et t'en as cité pas mal. Donc déjà il faut s'intéresser à ce qu'on mange, comment on mange, comment on cuisine, comment on prépare les choses. Parce que tu l'as dit sur la préparation des légumineuses, tu l'as dit aussi sur le fait de manger tel ou tel plat, etc. Mais ça veut dire que si on est végétarien et encore plus végane, j'ai envie de dire, il faut vraiment un suivi. Ou à apprendre les choses pour savoir vraiment ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est impossible sinon.
Ouais, exactement. Soit on est un petit peu autodidacte et on creuse le sujet, mais comme je disais tout à l'heure, sans faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir croiser et pas s'enfermer dans un dogme, il faut aussi croiser les sources, les recherches, etc. Parce que forcément, si on va chercher des choses sur des sites très orientés, vegan. Est-ce que c'est sourcé correctement? Est-ce qu'il n'y a pas eu du cherry picking? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas cherché volontairement des sources spécifiques et qu'on a oublié les autres? Voilà, ça c'est vraiment important si on veut faire le travail par soi-même. Et puis, sinon, effectivement, se faire accompagner pour qu'il y ait un œil extérieur qui permette d'aiguiller la personne, parce que je reviens toujours un petit peu à, je dirais, l'individu. Je dis souvent qu'il faut individualiser. Il y a des personnes qui vont très bien supporter, tolérer, je dirais, s'adapter à ce régime végétarien avec peu de carences. Bon, il reste quand même la B12 où je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Les oméga-3 aussi, pour les raisons qu'on a évoquées, soit les poissons, soit la complémentation. Après, on a tout un autre pan de personnes qui vont avoir plus de mal, où il va falloir supplémenter énormément. Et là, il y a des gens qui, quand je leur dis, ok, on garde ce régime végétarien qui est en place, mais par contre, vu les résultats de la prise de sang, parce qu'il faut être factuel, hein, il y a des personnes qui ont des prises de sang très bien et c'est OK. Par contre, il y a des personnes qui ont des prises de sang avec des déficits. Et donc là, il y a ces déficits-là. Voilà ce qu'il faut mettre en place comme complémentation. Et là, parfois, on me dit, moi, je veux pas m'avaler 10 ou 15 ou 20 gélules par jour.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde les gélules? Ou est-ce qu'on prend les gélules? Ou est-ce qu'on réadapte un peu l'alimentation pour corriger avec l'assiette? Moi, je préconise toujours de corriger avec l'assiette, forcément. Parce que sinon, on se retrouve un petit peu, on a beaucoup, et on le fait toujours, mais on critique beaucoup, on a beaucoup critiqué la médecine un petit peu classique qui, on est malade, on donne un médicament. On est stressé, antidépresseur, on dort pas bien, somnifère, etc., etc. Sauf que si c'est pour faire la même chose en micronutrition, ça me gêne un petit peu. C'est-à-dire que il y a une carence en oméga-3, on donne des oméga-3, il y a une carence en B12, on donne de la B12, il y a une carence en zinc, on donne du zinc, mais on corrige pas l'assiette. Ça, c'est un petit peu gênant, je trouve. Parce que du coup, on se retrouve à faire exactement ce qu'on a critiqué. Et ce qu'on critique toujours. Donc, il faut, je pense, déjà commencer à corriger l'assiette. Donc, il y a des gens où on n'a pas besoin de corriger l'assiette. Il y a des gens qui maîtrisent très bien la préparation des légumineuses. Il y a des gens qui absorbent très bien le fer, etc., etc. Et qui arrive à fonctionner très bien de cette façon-là. Et à l'inverse, il y a des gens qui me contactent régulièrement parce qu'ils sont fatigués, parce que si on reparle de sport, ils n'arrivent pas à récupérer entre les séances, voire même ils régressent. Ils ont des troubles de la mémoire, troubles de la concentration, des choses comme ça. Et ben là, il y a pas trop le choix. Soit il y a la liste de compléments longue comme le bras avec ce que je vous ai évoqué il y a quelques minutes, soit il faut corriger l'assiette.
Ouais, et puis tu t'as dit quand même qu'il y a pas mal de conséquences qui se voyaient dans les carences qui sont dans le temps finalement, dans la durée. Et je viens de regarder par curiosité parce que je me rappelais pas en quelle année était sorti le film Game Changers sur Netflix, mais c'est 2018. Et tout à l'heure tu donnais l'exemple du tir, ah mais 2-3 ans à baisser, etc. et tout. Je me dis que il a quand même fait réfléchir beaucoup de gens ce film. Hein, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu passer, qui ont voulu tester, qui ont dit attends, il y a l'homme le plus fort du monde, il y a l'ancien marine ou je sais pas ou le Navy SEAL qui est comme ça, il y a lui et tout. Ça doit être possible à faire. Mais avec ce que tu nous as dit sur la durée, sur le fait que c'est au bout de quelques temps que ça se met, qu'on voit que les carences s'installent, etc. Ben on est dans ce moment-là, là peut-être où certains se rendent compte que ça devient peut-être de moins en moins tolérable ces carences en fait.
Ah oui, clairement. Alors, ne serait-ce que si on juste une petite aparté sur ce documentaire qui a été critiqué de voilà, on sait aujourd'hui que c'est du bullshit complet. Vraiment, on sait par qui il a été payé, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi, c'est là où je dis qu'il faut pas avoir d'œillères, pas, il faut aussi savoir remettre en cause quand on lit des choses, quand on voit des choses. Même ce que je viens de vous dire là, vous pouvez les remettre en cause. Il n'y a aucun problème. S'il y a des sources qui sont contradictoires avec ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun problème. Mais il y aura aussi des sources qui vont certainement dans mon sens. Mais il faut toujours avoir un esprit critique dans ce que vous entendez. Et donc du coup, oui, effectivement, les carences, elles vont mettre un petit peu de temps à s'installer. Et c'est d'ailleurs souvent que je rencontre, et je dirais souvent des femmes d'ailleurs, parce qu'elles sont un peu plus sujettes, liées à leurs hormones et liées au fer aussi, où je retrouve des femmes qui sont vraiment fatiguées. Et ben, en corrigeant l'assiette, elles retrouvent une vitalité, je dirais, normale. Il n'y a pas de raison. Pourquoi de petit à petit, on s'est enfermé dans une fatigue un petit peu chronique, mais comme elle s'est installée tellement gentiment que c'est presque devenu une normalité d'être fatigué. Alors que non, c'est pas normal d'être fatigué toute la journée. Et donc, comme tu dis, oui, c'est quelque chose qui, et c'est là où c'est important d'avoir un œil extérieur parce que quand on fait un bilan avec quelqu'un, quand on fait une anamnèse, quand on pose des questions précises sur tout un tas de points, quand on demande à la personne ce qu'elle mange, quand on a la prise de sang sous les yeux, toutes ces choses-là, ça permet de voir ce qui va et ce qui va pas, et de proposer des solutions. Alors que parfois, quand vous êtes tout seul dans votre problématique, eh ben, vous ne la voyez pas, votre problématique. Mais c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une problématique de santé, eh ben, je vais essayer de me tourner vers quelqu'un d'autre pour que la personne me pose des questions. Parce que sinon, eh ben, on se retrouve toujours un petit peu enfermé, ou à l'image d'un, il y a des coachs, si on reprend l'entraînement, il y a des coachs sportifs qui coachent des personnes, mais qui ont eux-mêmes un coach. Parce qu'ils sont pas capables de s'entraîner eux-mêmes. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Il faut savoir se remettre en cause son alimentation, remettre en cause des croyances aussi, parce que le vegan, ça peut être aussi ça. Mais du coup, est-ce qu'il faut mettre en danger sa santé à long terme?
Bon, et tu sais quoi, c'est la rentrée bientôt, les élèves plancheront là-dessus en philo.
Pour l'année prochaine.
pour l'année prochaine, c'est notre sujet, ça y est, on a sorti le sujet du bac.
Allez.
Bon, toujours est-il que ces carences, on l'a dit qu'elles existent, etc. Alors, le but du jeu n'est pas de faire peur, c'est de faire prendre
Bien
conscience aux
sûr.
gens que elles peuvent exister, qu'elles existent, quel que soit le régime alimentaire, qu'elles existent, qu'on soit sportif ou sédentaire d'ailleurs, hein, dans tous les cas. Mais il faudrait les surveiller quoi? Parce que on a dit ça dans la durée. C'est quoi? Tous les ans, il faudrait faire un bilan, quel que soit son régime alimentaire et tout. Comment il faudrait faire?
Non, pas. Alors, déjà, il faudrait en faire un bilan initial pour vraiment voir où est-ce qu'on en est. D'un petit peu tout ce qu'on a dit là, et puis je vous ramène au podcast précédent qu'on avait fait, mais pour avoir un état des lieux. Ça, c'est important aussi de faire un état des lieux, mais pour plein de raisons pour la santé. De faire un état des lieux à un instant T, et déjà, ça nous donne, est-ce qu'on a des carences à cet instant T? Si on a des carences, ben, on peut les corriger. Et ensuite, bah, il faut suivre effectivement cette évolution. Si on n'a pas de carence, par exemple, un homme qui a peu d'entraînement, peu de volume d'entraînement, prise de sang de fer, tout va bien. Je ne vais pas lui dire d'aller faire une prise de sang tous les 3 mois pour son fer. Mm. Non, il vit très bien comme ça depuis des années. Son régime alimentaire, peu importe lequel, lui convient bien, avec le fer notamment, en l'occurrence, pas de souci. Par contre, une femme qui a une problématique de fer récurrente, bah oui, là, il va peut-être falloir aller vérifier son fer, peut-être tous les 3 mois, ou peut-être tous les 6 mois. Là, c'est un petit peu, je dirais, du cas par cas. Mais il faut vraiment commencer par vraiment une base, on voit où est-ce qu'on en est, et après, se faire accompagner, ou si on est autodidacte, le faire par soi-même, et bah, suivre. Si on complémente, et ben, par contre, oui, il faut suivre la complémentation régulièrement, pour voir, voilà, peut-être tous les 6 mois, peut-être tous les ans, le zinc, par exemple. Il y a des choses qui bougent peu une fois qu'on a trouvé son rythme de croisière. Il y a des choses qui, globalement, bougent peu. Par exemple, quand on a trouvé son dosage pour le Q10, son dosage pour le zinc, etc. Mmh. C'est des choses qui vont, globalement, peu bouger. Donc, on peut s'autoriser à aller tous les ans chez ma petite prise de sang avec uniquement ce que je veux checker.
Eh bien, écoute, on a fait un bon tour hein, de tout ça. C'est un sujet, hein, j'avais dit, j'étais abordé. J'avais une question hein, justement sur comment est-ce qu'on peut être sportif, à quoi il faut faire attention quand on est végétarien, vegan, etc. Jeudi d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à l'ami Armano qui a traversé la France en courant. Il est végétarien, enfin, ou à l'époque il l'était. Je sais pas s'il l'a encore d'ailleurs. Je me demande s'il a pas changé après à l'arrivée. Mais en tout cas, il a fait la traversée de la France en courant et en nageant comme ça. Et non, mais c'est pourquoi je le dis, parce que c'est pour montrer que il était suivi, il a fait sa préparation et tout, etc. Mais dans son alimentation, il avait réussi à le faire et qu'on peut faire aussi hein, du sport comme ça, que ce qui montre qu'on peut le faire. Et il était en pleine santé, en pleine vitalité, il courait 60 bornes par jour. Donc, ce qui montre que c'est possible. J'ai cité l'exemple de Simone Geschke, qui est le cycliste professionnel, qui a un suivi particulier, mais qui est capable d'avoir ses performances de haut niveau, hein, rappelons le Tour de France et tout. Mais c'est vrai que c'est important de faire attention. Je te remercie en tout cas d'avoir donné plein d'éléments qui font réfléchir, mais je pense qu'il faut réfléchir tout le monde. Hein. J'espère qu'il n'y a pas que que ceux qui s'intéressent à ces régimes végétariens, véganes, etc. qui auront écouté, que tout le monde aura écouté. Parce que c'est vrai qu'on oublie, hein, j'ai une tendance, on oublie un petit peu que l'alimentation, des fois, elle nous apporte beaucoup de choses. On voit beaucoup de témoignages de gens qui sont un peu repentis, qui disent « Ah, mais avant, j'avais choisi de faire tel truc, et puis je me suis rendu compte que ça allait pas, etc. » Mais il y a aussi beaucoup de gens qui témoignent pas, malheureusement, qui montrent pas aussi que, bah, en changeant des petits éléments dans l'alimentation, tout d'un coup, comme tu le disais, ils retrouvent l'énergie. Bon, dernier point, pour ceux qui voudraient te retrouver, comment on fait pour te retrouver, te contacter?
Là où je suis le plus actif, je dirais, sur Instagram, c'est quand même globalement le plus simple. Mmh. J'essaye de partager régulièrement, quand je vois des petites études passer, surtout autour des sports d'endurance et de la nutrition. Je fais des petites stories, voilà. Donner un petit peu de réflexion, parce que c'est aussi ça, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut être capable de s'intéresser, mais aussi d'aller chercher des infos à gauche et à droite et pas s'enfermer dans quelque chose.
D'ailleurs, à chaque fois, tu donnes de la lecture et des études à lire et tout dans tes stories. Je le dis, hein, pour ceux qui sont intéressés, il y a souvent des liens.
Bon, c'est en anglais, je suis désolé, mais.
Bah ouais, j'ai envie de dire, de façon, pour suivre un peu les études, hein, il y a beaucoup d'anglais, hein, si on va pas lire l'anglais, il y a plein d'études, on se coupe de quand même plein de sources de recherche, de choses qui sont vraiment très intéressantes. Et ben, en tout cas, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que t'as passé avec nous, moi j'ai
appris
plein de trucs encore. Tu m'as fait réviser mes petits trucs, tu vois, moi j'avais totalement oublié ces histoires. Zinc, etc. Mais bon, peut-être qu'il faut que je m'occupe de mon cerveau aussi. Peut-être qu'il y a des trucs qu'il oublie.
Les oméga 3,
oui, etc. Non, mais et le pire, c'est que j'essaye d'y faire attention. Mais je sais que des fois, je sais qu'il y a des éléments, c'est des sujets comme ça. Je fais un petit peu attention. Je fais un petit point avec moi-même et tout, des fois. Et puis j'ai des petits rappels aussi qui me disent attention là-dessus, il faut que je fasse attention à ça, etc. et tout. Et puis comme tu as remarqué, tu as vu, j'ai réussi à placer le mot cacahuète dans l'épisode.
Et on n'a pas parlé de beurre salé non plus.
C'est vrai ? On n'a pas parlé du beurre salé ?
Ouais. Non, on n'a pas parlé du beurre salé. T'as réussi à placer boudin, mais t'as pas placé le reste.
Ouais, j'ai pas placé beurre salé. Ah, beurre salé est placé, cacahuète est passé. Bon, écoute, bon, c'est le plus important.
Maintenant,
L'honneur est sauf. Écoute, bah, en tout cas, je te remercie. Mais très bien entendu, les liens. Hein, j'ai marqué mon lien, les 2-3 liens Neta pour te suivre, les 2-3 liens pour les anciens épisodes. Et puis aussi le lien que j'ai cité sur Geshke, parce que c'est intéressant l'article. Hein, c'était la question allait loin parce que il se demandait si finalement on n'allait pas jusqu'au dopage, hein, dans le cas où il était vegan. Est-ce que finalement il était obligé de se doper pour compenser? Et l'article explique en fait tout ce qu'il y a comme normes autour des compléments alimentaires qui sont certifiés, etc. pour pour ne pas être pris pour les contrôles antidopage, qui serait là un sujet intéressant aussi, hein, parce que les marques font des efforts et tout pour justement ne pas mettre en danger leurs clients. Un vrai gros sujet important, mais on va le passer pour aujourd'hui. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis nous, écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Continuez d'aborder ces sujets autour du sport et de la nutrition. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.